carnets de campagne. Bonjour, les carnets poursuivent leur route en Bourgogne-Franche-Comté et stationnent cette semaine en Côte d'Or, au centre de cette nouvelle région. J'éviterai d'être trop laudatif sur ce département pour y être personnellement attaché, ce qui rendrait les carnets suspects de parti pris. Mon village, entre parenthèses, s'appelle Aignel-Duc, c'est le plus beau du monde. Vous voyez, ça commence déjà. Vaste territoire, la Côte d'Or continue à enregistrer une augmentation régulière d'habitants avec l'attractivité de la métropole dijonnaise qui ambitionne de devenir une smart métropole 3.0, rien que ça. Autrement dit, elle souhaite devenir une ville hyper connectée. Nos carnets, comme à leur habitude, le seront modestement. D'ailleurs, dans cette ruralité très agricole, nous allons vers Vito rejoindre une jeune agricultrice et éleveuse qui expérimente le premier abattoir mobile en France. Elle s'appelle Émilie Janin. Autre ruralité, Mirebeau-sur-Besse, petite localité de 2000 habitants au nord-est de Dijon qui se lance dans l'économie circulaire avec l'entreprise adaptée Novation Recycling. C'est du pur patois à bourguignon. Non, je plaisante. Présidée par notre second invité, Emmanuel Bouillin.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Émilie Janin, bonjour.
Bonjour.
Émilie, éleveuse de vaches charolaises à la ferme de Lignières, c'est à Beurizeau. Alors j'insiste, Beurizeau, mais c'est écrit B-E-U, c'est pas le bœuf riseau. On est tout près de Vito.
C'est ça.
Et vous officiez dans une ferme familiale.
Voilà, je me suis installée en 2007 exactement, mais enfin j'ai démarré en 2006 derrière mon père en fait. C'était pas vraiment prévu que je m'installe, mon père a eu un accident et ça a précipité le choix et mon frère m'a rejoint en 2010.
Vous élevez une race charolaise, alors la particularité c'est que c'est une race docile.
Je sais pas. En tout cas, les miennes, ouais, j'ai travaillé là-dessus, oui. J'étais enceinte quand je me suis installée et j'avais donc pas très très envie de me mettre en danger physiquement vu que j'avais des tout petits enfants. Et donc, très vite, j'ai voulu sélectionner des animaux pour qu'ils soient très gentils. Voilà. Mmh.
Ouais. Sur le cahier des charges que vous vous êtes imposé, vous faites bande à part ou vous suivez une charte édictée par un groupement d'éleveurs de nouvelle génération?
Alors, au départ, on a fait bande à part et puis voilà, on n'est dans aucun groupement ou label reconnu, on va dire, mais ça rencontre quand même un succès et puis on se sent de moins en moins seul dans les éleveurs parce qu'on n'est pas les seuls à faire les mêmes choix. C'est-à-dire qu'on a choisi de travailler sans OGM, sans produits chimiques, sans antibiotiques, sans vaccins, tout simplement parce qu'on était sensibilisé d'un point de vue personnel au fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'antibiotiques qui sont efficaces sur nous en médecine humaine. Ces molécules qu'on peut utiliser, elles peuvent rester très très longtemps dans le sol, dans l'eau, et que quand on veut manger de la viande, il faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit sain, et qu'on n'avait pas envie que les gens qui mangent nos viandes ingurgitent je ne sais quelle molécule. Voilà, bref, donc on avait envie que ce soit vraiment le plus simple possible. Ouais.
Émilie, vos voisins éleveurs ont ricané ou ont été interloqués par votre démarche?
Ah ouais, ils ont plutôt ricané, je pense. Et c'est de façon gentille de le dire.
Et maintenant?
Ah, maintenant, on est plus respectés, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais de quoi les provoquer, parce que je faisais vraiment pas comme eux. Et puis j'ai choisi aussi de travailler avec des chiens de troupeau, alors que ça se faisait pas. Bah, ça se fait que dans la montagne, pas ici. Enfin bon. Tout ce que l'on a fait comme choix, c'était d'abord pour que notre façon d'élever nous corresponde à nous personnellement et que ça s'articule au mieux avec nos vies de famille respectives.
Alors vous avez décidé, chose encore unique en France, hélas, d'utiliser un abattoir mobile suite à une expérience menée en Suède.
Oui, on a été amené à découvrir un modèle qui existe effectivement en Suède dans le cadre d'un tournage de film, enfin voilà. Et du coup, quand on essaie de faire la meilleure viande possible, on fait attention à comment on élève nos animaux, comment on les nourrit, comment on travaille avec des animaux dociles. Enfin, bref, il y a plein de critères. Et il y en a un, c'est la qualité de l'abattage. Il faut qu'il soit fait sans stress. Alors moi, je les emmène à l'abattoir d'Autun jusque-là. J'essaie de mettre tout mon possible pour que ça soit fait sans stress. Mais quand j'ai vu cet abattoir mobile qui va donc de ferme en ferme et où les animaux rentrent dedans comme s'ils passaient dans un couloir, mais ils sont chez eux, quoi. C'était vraiment la solution idéale, quoi. Et donc, en rentrant, j'ai dit à mon frère, voilà, moi j'ai vu ça, je veux plus tuer un seul animal dans un abattoir normal. Je veux absolument qu'on fasse ça ici en France. Donc on travaille dessus, ouais, effectivement.
Vous voulez dire que vous sentez quand même qu'il y a des limites dans ce système d'abattoir conventionnel?
La première que je vois, moi, c'est que dès qu'on les enlève de leur ferme, etc., les animaux sont stressés. Et pas simplement parce qu'ils sentent l'odeur du sang, c'est surtout parce qu'ils se repèrent beaucoup à l'eau olfactif, en tout cas beaucoup les vaches. Et donc, dès qu'elles sentent un autre univers olfactif, ça les perturbe. C'est comme nous, hein, si on va les voir tout endimanché avec plein de parfums, elles vont pas nous reconnaître. Et puis en plus, il y a le côté social. Hein. On les arrache du coup à leurs copines, puisque c'est des animaux grégaires, et donc c'est comme nous, si on arrachait un enfant d'une famille comme ça, forcément, il stresserait. Et ben là, c'est pareil, quoi. Donc c'est vrai que la solution de l'abattoir mobile me paraît la moins pire. Effectivement, certes, il faut quand même passer par la phase d'abattage pour pouvoir avoir de la viande, mais je pense qu'on peut le faire en le faisant mieux et en le faisant en respectant les animaux, quoi. Et on peut y arriver, ouais.
Est-ce que vous appelez, Émilie, le bœuf éthique, c'est un label de qualité que vous avez inventé ?
Oui. L'idée, c'était de trouver une solution économique pour que cet abattoir ne soit pas juste une belle utopie. Donc du coup, c'est une filière qui se repose sur une marque, le bœuf éthique, et qui propose aux éleveurs et aux consommateurs, du coup, de retrouver des avantages de la vente directe. Et l'idée, c'est vraiment que ce superbe abattoir puisse bénéficier à plusieurs, et puis que des gens qui aiment manger de la bonne viande puissent le faire sans avoir le moindre doute sur comment ont été élevés les animaux, premièrement, et deuxièmement, comment ils ont été abattus aussi, quoi.
Et donc, voilà. Abattage à la ferme, ensuite transformation à la ferme, et après, vente à la ferme.
Moi, je vends à la ferme pour ma ferme, mais pour le bœuf éthique, ça ne sera pas forcément vendu dans les fermes, ça sera vendu aussi dans les grandes enseignes en grande ville. Ouais.
Bravo. Voilà. Ça s'appelle la ferme de Lignières. Allez sur le site, vous allez trouver en lien Beurizot du côté de Vito. Le bœuf éthique a aussi son site, bœuf-éthique.com. Et puis, à la page Facebook aussi, pour la ferme de Lignières et le bœuf éthique. Merci, Émilie.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
L'UNAPI est la première fédération d'associations françaises de représentation de défense des intérêts des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles. Et dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui débute aujourd'hui, l'UNAPI et ses associations lancent une campagne d'information sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « On travaille ensemble en Côte d'Or ». Un exemple d'entreprise adaptée avec Emmanuel Bouillin. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Emmanuel, président de l'entreprise adaptée, toute récente, Novation Recycling, je dis récent parce que elle s'est installée dans le bourg de Mirebeau-sur-Bèze, en Val-de-Saône, en décembre 2016. Et dans le cadre d'un rachat d'entreprise qui est en liquidation au tribunal de commerce de Dijon.
C'est cela même, effectivement. On a déposé un dossier pour reprendre une entreprise adaptée qui était en dépôt de bilan. Et depuis décembre 2016, on essaie, je dirais, de redonner une dynamique à cette société en ayant repris l'intégralité du personnel qui était à hauteur de 10 salariés à l'époque.
Oui, vous en avez 4 supplémentaires depuis l'installation. Dites-moi quand même, comment vous êtes parvenu à racheter cette entreprise ?
Alors, c'est un concours de circonstances, puisque un de mes associés préside une structure nationale qui regroupe des sociétés d'entreprises adaptées, et il a eu vent, je dirais, de cette société qui était en dépôt de bilan. Donc c'était une opportunité de pouvoir mettre en œuvre, j'ai un certain nombre de savoir-faire qu'on développe, lui comme moi, en direction de structures adaptées ou d'autres types de structures, mais cette fois-ci en ayant notre propre entreprise.
Alors c'est le réseau Cyclétique qui vous a permis de faire ce rachat ?
Tout à fait, c'est le réseau Cyclétique qui nous a mis en contact sur ce rachat. Son directeur, on est d'ailleurs un des actionnaires de Novation Recycling, puisque on a fait le choix aussi d'être sur un actionnariat assez vaste pour une petite entreprise, puisqu'on est 10 actionnaires, chacun avec des compétences diverses et variées, qui nous permet, je dirais, de fonctionner avec un peu plus d'intelligence, nous semble-t-il.
Ouais, alors, comme vous présentez entreprise de l'économie sociale et solidaire, quel statut vous avez, parce que vous parlez d'une entreprise adaptée, est-ce un ESAT ?
Alors, pas du tout. Nous, on est effectivement, déjà en termes de statut, on est une SAS. On a fait le choix, je dirais, d'être sur un statut privé. Et puis après, on est entreprise adaptée. C'est des sociétés qui sont entre l'ESAT et puis les sociétés classiques. Donc nous, nos salariés sont tous reconnus RQTH, donc personnes handicapées, mais plutôt, je dirais, avec des handicaps mineurs, contrairement à ce qu'on peut trouver sur les personnels des ESAT qui parfois ont des handicaps assez lourds.
Oui. Le recyclage, vous avez la gestion des déchets de bureaux et de papier et également des déchets informatiques. Le fait d'être à 20 km de Dijon, ça vous aide à développer vos activités ?
Alors le fait d'être à 20 km de Dijon, je dirais pas un handicap, parce que déjà on a des locaux vastes qu'on ne pourrait pas avoir sur Dijon, puisque On a 5000 mètres carrés de bâtiment pour mener à bien nos trois activités, hein, parce que vous avez cité effectivement le papier, le T3E, mais aussi le textile.
Oui.
Et puis après, on se retrouve à 60 km de Besançon, on n'est pas très très loin non plus de Zoul, on n'est pas très très loin de Langres, pas très très loin de Grès. Donc finalement, je dirais que ce n'est pas un handicap d'être en périurbain, bien au contraire.
La relation que vous avez avec les salariés est assez particulière parce que Lucie, qui communique, qui nous a envoyé beaucoup d'informations, nous précise que dans votre démarche de responsabilité environnementale et sociale, vous proposez aux salariés d'obtenir un ordinateur reconditionné par vos services tous les 3 ans, ainsi que la possibilité d'obtenir 10 kilos de vêtements textiles par an dans votre boutique.
Tout à fait, on a mis dès le départ quelques avantages en place. Ceux que vous citez effectivement sur le textile, ce qui représente à peu près, j'ai un équivalent économique d'à peu près de 1000 euros. Effectivement, un ordinateur, puisque comme on recycle des unités centrales fournies à nos salariés qui le souhaitent, tous les 3 ans, un ensemble complet. Et puis, de manière un peu plus anecdotique, on a développé toujours dans cette politique de RSE des ruches sur le site. Voilà, donc cette année, ils ont eu droit à 250 grammes de miel chacun, produit in situ.
Ouais. Et vous vous permettez aussi d'intervenir dans les écoles?
Oui, tout à fait. Le développement durable, c'est aussi former les générations futures, hein, puisque sur nos 3 métiers, simplement 30% des produits aujourd'hui sont récupérés et recyclés. Il y a encore du travail à faire de conviction. Donc on travaille avec un certain nombre d'écoles sur la récupération de papier, des 3E ou textiles. Et on ouvre aussi l'usine, puisque l'année dernière, pendant la semaine du développement durable, c'est plus de 150 enfants de Mirebeau qui sont venus visiter l'usine sur une journée.
Innovation Recycling à Mirebeau-sur-Bèze. Il y a une page Facebook, il y a l'adresse internet, vous allez trouver ces liens à nos pages d'émission. Merci Emmanuel.
Merci à vous.
Je profite 30 secondes de vous rappeler qu'au mois de décembre, nous serons dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Nous irons du côté de Paris et ensuite dans la Sarthe. Pour l'instant, en Côte d'Or, le jeu des 1000 euros s'arrête à Vandenesse-en-Auxois. Nicolas Stoufflet.